Ben, c'est pas vrai en fait.
Ouais. Non, pas vraiment.
C'est vrai qu'on peut se poser la question de, à l'échelle de notre d'une ville ou d'un territoire, chacun d'entre nous peut créer son siège et avoir des objets d'analyse qui répondent à ses propres questions. Est-ce qu'après nous on va être capable d'échanger entre Tours, Nantes, Aix et différentes thématiques, et sur quel modèle? Est-ce qu'on a des outils à l'heure actuelle qui permettent, bon, il y a les chaînes qui sont des formats interchangeables et interopérables, mais est-ce que dans la construction de nos siges, on a réussi, on peut commencer à lancer des pistes de...
Harmonisation.
Oui.
Est-ce que ça vaut le coup de le faire?
Comme les questions sont assez différentes, je ne suis pas sûr que ce soit facile immédiatement.
Il y a deux choses. Pour revenir aux objets, je pense que ce qui est échangeable, en fait... Pour moi, il y a toujours trois niveaux. Il y a l'enregistrement, ce qui est enregistré, et c'est ce qui est fondamental. Parce que finalement, si on prend l'exemple de la carte archéologique, enfin, patriarche, quelqu'un qui veut faire une étude, quelle qu'il soit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va à un SRA, il va sortir son listing du SRA, il a son point de départ, mais de toute façon, après, il revient aux sources. C'est ça le fondamental. Et après, il ne s'agit pas de critiquer une carte archéo. Enfin, je veux dire, le patriarche est fait pour répondre à une logique, mais ça correspond à leur logique. Donc on ne va pas leur en demander plus. Mais ça reste un outil où ça permet, mine de rien, il y a un gain, on obtient un listing qu'on n'avait pas il y a 25 ans en arrière. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a un listing, et au regard de ce listing, on a les sources bibliographiques, en général. Donc ça permet et ça c'est le premier point, je pense, qui est essentiel, c'est que dans la partie patrimoniale, c'est de conserver cette mémoire. Ça, c'est ça qu'on peut, à mon avis, réfléchir sur la partie diffusion, partage de la connaissance. Après, dans un deuxième temps, on va effectivement élaborer des entités, des objets, tout ça, pour répondre à un objectif qui va être une étude, un programme collectif, une thèse, une logique de service patrimoine. Ça, à mon sens, ça correspond à un moment, à un besoin, à un moment donné, qui sera peut-être pas... c'est pour ça qu'on décrit par exemple patriarche, on n'a pas très, mais en même temps ça correspond à une logique du ministère de la culture, donc il ne peut pas correspondre à une logique de laboratoire ou de service de... voilà, donc il ne faut pas en attendre plus. Donc je pense que c'est à l'heure de se dire ce qu'on fait là, ça va être utile à tous et à tout le monde. Par contre, et là c'est le troisième pont de ce que j'ai structuré, formaté, je vais peut-être en avoir des résultats, produire un certain nombre de résultats, et c'est ces résultats aussi que je peux partager, valoriser, diffuser, communiquer. Alors, le truc traditionnel, c'est les articles. Mais maintenant, on a quand même d'autres supports de médiation. Donc, on voit les restitutions 3D, on voit... voilà. Et je pense que la notion de partage et d'interopérabilité doit se faire en amont sur cette notion d'enregistrement, qui doit être, à mon sens, le plus simple possible. Et en aval sur les résultats. Avant, le résultat, c'est un article. Bon, maintenant, ça peut être un support numérique, mais qui doit être aussi simple d'usage. Et après, donc, pour venir au point de vue technique, dans le domaine de l'information géographique, il y a des normes d'interopérabilité. Les normes ISO, on se fonde sur les normes ISO. Voilà. Donc, après, c'est tout. Et du moment où on est sur des normes, on respecte, il faut des métadonnées, les normes sont les métadonnées, on utilise ça, et après, voilà, ça, c'est pas les archéologues qui vont réinventer, à mon sens. Après, dans la description de données patrimoniales, il y a une norme qui existe, qui est la norme CIDOC-CRM, qui est une ontologie. Enfin, pour se remettre une discussion avec Christine hier soir. C'est qui donne. C'est un élément descripteur très 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 succinct du fait patrimonial, de tout ce qui est patrimonial, hein, ça va de l'objet jusqu'à l'édifice. Et à part comme c'est une ontologie, après chaque thématicien, chaque spécialité, chaque groupe peut après greffer lui. Mais cette norme, c'est le support qui permet derrière de partager ensemble. Donc ça, je pense qu'après il y a des choses qui existent, il ne faut pas essayer de réinventer la poudre. si on veut commencer à réfléchir. Ce qui est le cœur, là où le but de Jean de Réunion, c'est effectivement réfléchir en disant l'intérêt de l'outil, c'est qu'il nous oblige à repenser la manière dont on décrit nos objets, la manière dont on veut les traiter, de reposer de nouvelles questions. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut. Enfin, que c'est intéressant d'échanger. Pour des logiques de SAS, mais même de laboratoire, parce que je pense que dans un laboratoire, on n'a pas suffisamment réfléchi, effectivement, on partage de la donnée. Vous, ce sont vos missions dans les collectivités, nous, ce ne serait pas nos missions, et c'est regrettable, je pense, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on réfléchisse à cette pérennité, et après, le partage se fera sur des choses très simples. Voilà, ça c'était mon point de vue, mais si vous en avez un autre, vous avez le droit. Je suis prête à en discuter.
Mais ça dépend aussi du fonds de financement pour nous, pour Padou par exemple. Et on a trois niveaux ou trois conditions, ou trois objectifs. La chose la plus importante pour nous, c'est la connaissance historique. J'ai fait les projets sur les maisons parce que je suis intéressée à connaître l'histoire des Padou médiévales. Et au début, on a dit, bon, on avait des problèmes avec la superintendance, et donc on a dit, on va étudier l'architecture. Bon, et après, on s'est lancé avec le GIS et tout ça. Et donc, l'objectif, c'est ça, et c'est pour ça que je mets tout à l'intérieur, parce que c'est plus connaissance. Deuxième objectif, mais aussi conditionnant, c'est que c'est un projet qui, pour moi, doit être didactique. Et je veux dire, j'y travaille avec mes étudiants. Et pas avec des professionnels. Ça veut dire que beaucoup de choses, je ne les ferai jamais. Parce que je ne peux pas payer, ou je ne veux pas payer, quelqu'un qui fait les crédits, ou qui me fait, à notre fois, les choses informatiques. Ou, je peux faire avec les étudiants. Et on arrive jusqu'ici. Non, l'objectif, c'est que les étudiants, ils font le maximum possible. Mais c'est conditionnant, mais à la même fois, objectif. Et la troisième chose, on pourrait dire politiquement que c'est pour faire connaître et condivisible les résultats au public. Je dis politiquement parce qu'en réalité, on fait ça pour la financiation. Parce que si on présente à la banque des informations historiques, va dire aussi un autre projet sur l'histoire de Padoue. Si on commence à dire on va faire ça pour les gens, pour connaître les rues et la map thématique. Et donc, on fait beaucoup de choses qui sont peut-être pas super scientifiques, mais qui sont orientées à les prochains financements ou à laisser les financiateurs contents. Parce qu'à la fin, la banque et les institutions publiques en Italie ou même, ils sont intéressés à ça, à faire des produits qui sont utilisables par les grands publics. Donc,
oui, puis ça, de toute façon, ça va être une logique même pour nous. On va avoir, ça va être de plus en plus. On a un retour social et économique.
La logique de la valorisation.
Ce sont deux niveaux complètement différents. Les premières, très fines. Pour la connaissance scientifique et l'autre très grossière pour les gens, mais on essaye de faire ces grossières les plus scientifiques possibles.
Et c'est là où me semble-t-il la 3D réussit ce pari, parce qu'à la fois la 3D, moi je viens d'un labo qui a été vraiment porteur en matière de 3D, même si je suis pas sûre, on va pas évoquer les aspects conflictuels de la 3D aux ONUS. Mais on sait bien que ça a une véritable vertu scientifique, parce que faire de la 3D, c'est réfléchir sur l'objet dans sa restitution. On l'a vu avec la tour-porche de la cathédrale chez nous, enfin, c'était vraiment une opportunité pour penser une reconstitution d'un objet historique disparu, que tu ne retrouves qu'en fouille. Bon.
Pour nous, c'est différent parce qu'on a les bâtiments déjà en 3D. Alors c'est pas tellement important.
Ah ouais, alors que nous, par exemple, on utilise beaucoup la 3D pour la restitution de bâtiments disparus. Pour Bordeaux, ça a été tant la tour porche de la cathédrale que l'ancien palais ducal. Donc ça a été surtout, ou encore la villa romaine de Plassac, ou encore le Circus Maximus, puisque initialement ça s'est porté sur des sites romains. Donc, et à chaque fois, c'était véritablement un appui à la recherche pour se jouer de la multiplicité des hypothèses. Hein, donc, et véritablement.
Dans ce sens-là, ouais.
Absolument. Et c'est véritablement vertueux sur ça, parce que c'est stimulant intellectuellement. On propose telle forme de restitution, on l'appuie sur quoi, etc. Mais avec ça, on sait bien, le principal avantage est aussi cette dimension de valorisation. La 3D, regardez n'importe quelle émission à la télévision, sur n'importe quel site, hein, on va vous mettre de la 3D, ou n'importe quel musée, espace muséal et muséographie actuel mobilise de la 3D parce que ça envoie une image, etc. Donc la 3D a cet avantage, je dirais, de jouer des deux. Hein. Mais je rejoins parfaitement ce que tu dis. On sait bien que la plupart de nos projets doivent actuellement comporter ce volet de valorisation, voire ce volet formation.
C'est aussi juste parce que par Padoue, par exemple, on s'est trouvé, bon, surtout les filles, qui. Ils étaient dans la rue, un étudiant en bâtiment, et les gens, les propriétaires, ils sont venus à nous interpellant et demandant avec merci. Plaisir, est-ce que vous pouvez étudier mon palais chaque fois qu'on fait... non, c'est vrai. Vraiment, Padoue, il faut que... Je ne sais pas combien de vous, vous étiez à Padoue. C'est extraordinaire, les patrimoines architectoniques privés, oui. Mais extraordinaire. Et les mêmes familles, ils ne connaissent pas du tout leur palais. Et ils ont envie, ils ont vraiment envie de connaître... d'avoir l'information. On fait aussi des activités spectacles, bon, on va dire comme ça. On a fait beau pour la nuit de la recherche, par exemple. Moi-même, je m'ai vêtue de dame médiévale du 13e siècle, et on a fait les itinéraires en montrant les choses spécifiques, la stratigraphie, les différentes typologies, les choses qu'il ne connaît pas du tout. Et il y a eu un succès extraordinaire. Mais avec les, il y avait des gens propriétaires de ces palais qui sont encore beaucoup à Padoue, les anciennes familles propriétaires du 2e, 3e siècle, qui sont venus à la rue pour faire l'itinéraire avec nous. Et pour nous dire, pour nous donner l'information de « on venait chez moi, si vous voulez entrer ». On n'a jamais eu de problème pour entrer dans les palais et tout ça, parce qu'ils ont envie et besoin de connaître. Des fois, on croit que les gens, bon, il faut faire quelque chose de super banal, et au contraire, les gens, ils sont « hungry ». Et ça c'est bien, mais le problème c'est qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai toujours peur entre les trop banals et les trop scientifiques, et aussi avec les tablettes et tout ça, comment faire quelque chose pour aller à la maison, pour la rue. Par la rue, c'est pas facile. Des fois l'iPhone il savait pas, je veux rien, la tablette, bon, c'est, il y a trop de soleil, et donc je me fais toujours ces questions. Quoi faire? C'est pas le sujet de notre discussion, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut se demander quoi faire.
C'est complètement dans notre démarche. Alors, a fortiori, quand on regarde le label ou autre, mais cette dimension valorisation de
l'éducation. Et quoi communiquer
est devenue,
quoi exactement
vraiment, et dans quel niveau. C'est vraiment. Ne serait-ce que pour obtenir des financements, mais aussi parce qu'il y a ce jeu de médiation. Mais qui renoue finalement avec le statut d'universitaire, qui a toujours été. On est beaucoup sollicité pour des conférences, là, je ne sais pas vous, mais moi, si je répondais à toutes les sollicitations, je n'arrêterais pas. On est beaucoup, l'universitaire comme médiateur de la connaissance, donc ça se joue maintenant autrement sur d'autres supports, mais finalement, me semble-t-il. Il y a une continuité par rapport à ça.
En fait, c'est obligatoire, parce que même si on le fait pour les gens et pas pour les financiateurs, ce sont ces gens qui vont demander la culture et pas...
Oui, c'est ça.
Ce sont eux qui vont dire c'est nécessaire et qui vont presser pour ça.
Si vous existez encore en tant que métier,
absolument. C'est notre fonction sociale. Voilà, ouais. Revient à ça.
De toute façon, on voit...
Notre utilité sociale, elle est là.
On voit le succès, justement, avec les journées du patrimoine, des choses comme ça, les journées portes ouvertes. Ça marche toujours, effectivement.
C'est pesant et on ne sait pas toujours quoi en faire, mais je crois qu'on est obligé.
C'est ça, condition quand même, notre travail.
Enfin, je pense que la difficulté, c'est arriver à effectivement produire, parce que c'est une demande et de toute façon, je pense que c'est inévitable, mais il ne faut pas que ça pollue la démarche scientifique. Enfin, voilà.
Parce que c'est chronophage quand même.
Ah oui, c'est chronophage.
La valorisation, le porter à connaissance, on passe du temps. Enfin voilà, je vous dis, patrimoine, c'est magnifique, mais nous, il faut voir dans un service. Le temps qu'on passe à préparer des panneaux, là on va préparer des conférences, on va préparer des circuits, voilà, voilà dans la ville, donc il faut qu'on prépare les textes, qu'on prépare, enfin, voilà, c'est
un métier,
temps,
c'est un métier,
vrai que c'est valorisant pour le patrimoine, mais c'est valorisant pour nous aussi, hein, c'est quelque chose d'agréable de le faire, hein, mais c'est chronophage, quoi, et en effet, il ne faut pas que ça pollue le temps qu'on veut consacrer aux scientifiques, d'autant plus que dans un service, on n'est pas considéré comme chercheur, donc... on ne fait pas des sciences, on fait du préventif et on va. Donc c'est compliqué.
Non, puis pour revenir à la 3D, donc c'est vrai qu'il y a un vrai aspect valorisation et une attente aux élus, du public et tout ça. Mais l'intégrer dans nos démarches, c'est là où, enfin moi des fois je tire la signe d'alarme, c'est que ça ne doit pas être une finalité en soi.
Non, du tout. Mais c'est un outil.
Ben voilà, ça doit être à un moment donné un outil comme un autre, parce que ça permet justement de renouveler un certain nombre de questions ou d'hypothèses. Et quand on voit la modélisation de bâtiments, des fois c'est vraiment utilisé effectivement comme outil de questionnement, parce que ça permet de valider des hypothèses qui n'ont jamais pu être validées qu'en modélisation. Mais il y a d'autres fois, les questions scientifiques n'y sont pas. Donc là, passer du temps pour faire un modèle 3D quand il y a...
Je rajoute juste pour dire, et souvent, tu te fais instrumentaliser sans même pouvoir garder la main sur ton objet. Enfin, la dérive, elle t'échappe. Et c'est très commun, ça. C'est très, très commun.
A contrario, ça peut aussi apporter un gain de temps réel sur le terrain. C'est-à-dire que la photogrammétrie ou la lasergrammétrie, telle qu'on la pratique, nous apporte des informations. On automatise maintenant les calculs
pour l'enregistrement.
Il y a des informations qu'on n'aurait pas eues, si ce n'est qu'on n'aurait pas eu du tout, parce qu'il aurait fallu prendre un échafaudage, donc il y a des surcoûts. Ça nous sert pour la valorisation, mais ça nous sert aussi pour l'aspect purement scientifique et de connaissance. Et l'intérêt, effectivement, on parlait tout à l'heure de médiation, c'est que la médiation soit assise sur une base scientifique solide. Il ne faut pas non plus qu'on fasse du sketch-up, c'est pas pour dénigrer spécialement.
Je l'ai dénigré moi-même.
Bon, d'accord, alors ça va. Il ne s'agit pas de faire du sketch-up à tout craint, il faut quand même que la base soit solide. Par contre, après, on va épurer un petit peu le discours pour le rendre intelligible. Je crois que c'est
un peu comme il y a quelques années avec le début l'expansion des SIG où chacun voulait faire son SIG. Ouais. C'est quoi ton questionnement?
Ah, bah, je sais pas.
C'est toujours valable.
Oui, non, mais voilà, moi je sais que c'est pour beaucoup le SIG, c'est juste outil pour faire, voilà. Et effectivement, là, on est plus, on rentre dans la 3D où il y en a qui font la 3D juste pour faire la 3D, quoi. Ah, oui, j'ai vu un tel qui a fait de la 3D, j'en ai fait. Et effectivement, ça repose sur quoi, des fois? Ben, sur le pas grand-chose.
Enfin, je crois que Sandrine, c'est ce que tu disais. Soit ça sert pour tester des hypothèses, et là, c'est vraiment d'un point de vue.
C'est porteur, ça sert vraiment quelque chose.
Soit ça sert à montrer des choses à un certain public, et là aussi, ça sert vraiment. Mais quand c'est. Et c'est Alexandra qui dit ça, je me rappelle, elle a dit qu'à Padoue, vous avez fait des scènes, vous avez refait plein de bâtiments. Elle a dit. Ça a coûté bien cher pour les bâtiments qu'on peut voir quand on sort. Et là franchement, c'était ça avait été. J'aurais vendu ça pour rien. Enfin, pour, si, ça fait moderne, voilà, comme il y a quelques années. Ah ouais, tu vas essayer, ouais. Toi t'es moderne. Là c'est.
Ah, par contre, moi j'ai dit, enfin, c'est toujours pareil, c'est pas dans le contexte urbain, mais ça peut avoir une valeur de sauvegarde patrimoniale.
Oui.
C'est l'idée de sauvegarde des bâtiments avant restauration, avant destruction.
Pour nous, avant diagnostic, une surface de terrain.
Complètement, aussi bien pour de la stratigraphie que pour des bâtiments d'isolation. Et comme c'est enregistré en TXT, c'est des formats qui sont a priori interopérables et puis utilisables par plein de. Les urbanistes, les architectes qui vont bosser sur la restauration utilisent ces formats. Donc il y a toute une chaîne de personnages, des personnes qui vont faire la médiation à l'archéologue et en passant par l'architecte qui vont utiliser ces documents bruts. Donc pour un coût à l'échelle du projet global restreint, enfin, c'est vrai qu'on est sur des coûts en photogrammétrie 500-600 euros au jour, c'est moins qu'un topo. On peut avoir maintenant des choses qui ont servi à toute une chaîne de personnes et qui font de la sauvegarde, qui font de l'archivage. Effectivement, mais ce n'est qu'un outil. Le SIG n'est qu'un outil, finalement. Toute notre pratique d'archéologue est utilisée plein d'outils différents, à bon escient, au bon moment. Donc il faut se poser des questions en amont. On ne va pas juste.
Et aussi, dans le discours de médiation, bien dire que ce n'est qu'une reconstitution. et qui, avec toute la part d'hypothèse. Et ça, le problème, notamment dans l'usage médiatique et particulièrement télévisuel, c'est que c'est la réalité. Que le 3D renvoie à la réalité. Or, c'est à nous à être dans cette prudence du discours de bien dire qu'on est là dans une reconstitution hypothétique. Mais ça, ça passe très mal, même si, enfin, pour avoir subi ça lors des journées du patrimoine, on a beau dire non, non, mais c'est une hypothèse, ouais, l'institution, ça devient réel.
Mais oui, parce que l'image est tellement forte.
Et oui, je sais, je sais.
Après, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, et des fois, si vraiment c'est pas sûr, on ne veut pas le faire du tout, je pense. C'est pour ça qu'on veut faire des institutions à partir du moment où on a vraiment les données.
Et puis, avec la réalité augmentée. Cluny, c'est terrible, là, quand on écoute le public quand il.
Ah ouais.
Enfin, c'est drôle, ouais. Parce que c'est beau, c'est chouette, c'est super. Enfin, je veux dire, point de vue didactique, c'est génial. C'est vraiment, c'est. Parce que là, t'as un signe majeur, mais il existe. Enfin, tu le vois plus, et là, il est complètement immergé. Là. Et c'est vraiment chouette. Mais après, faut s'en défaire. Le public, faut qu'il se dise, c'est une hypothèse à un moment donné. Et ça, ça passe pas forcément. Là, un discours qui va. Voilà.
Et est-ce que dans le traitement même des images, on fait apparaître les hypothèses comme quand on institue un vase.
Ça fait partie de questions méthodologiques. Ça, à Samson l'année dernière, il y a eu une session là-dessus, effectivement, ceux qui bossent après réfléchissent là-dessus. Comment intégrer plusieurs hypothèses dans ton modèle 3D, en fait. Dire qu'à un moment donné, t'avoues, t'es allé comme ça, tu sais pas exactement, t'as une hypothèse, et il faudrait pouvoir passer différents. Et ça, en termes de gestion aussi, je crois que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si c'est la 3D.
Au GIAP, ils se sont pas mal posé cette question-là.
C'est ce que j'allais dire l'année dernière.
Les notions de transparence, quand on est dans l'hypothèse pure, et ce qu'on connaît réellement. Et c'est important de le marquer, là, par contre, pour le coup, en tant qu'archéologue professionnel, de montrer, voilà, ça, on en est vraiment sûr, parce qu'on a trouvé des traces archéologiques. Ça, c'est la pure hypothèse, on va traiter ça parfaitement différemment. Et là, les gens se posent la question.
Comme dans la restauration, en fait. Marquer ce qui est restauré de ce qui est.
C'est ce qu'on va faire aussi là. On est en train de refaire la muséo à Vibrac. Donc on a fini l'étage l'année dernière là en bas. Et on est parti de plan. Avec l'Institut archéologique allemand, ils ont fait des restitutions 3D. Et à partir de ces restitutions 3D, on a fait des maquettes. Mais les maquettes, on a voulu justement dans cette idée de ça reste de l'hypothèse. Dans la restitution 3D, on est dans la précision. Alors pour les maquettes, c'était juste pour le bâtiment, genre le cube dans le Monopoly, et avec un effet justement de on a fouillé ça, donc avec justement ce contraste de couleurs, on est dans du gris, mais alors gris foncé pour c'est fouillé, et pour la restitution, c'est dans une autre couleur, mais en restant justement très très basique. Pour pas que les gens se disent effectivement c'était comme ça quoi. C'est... Surtout pour la proto-histoire où les bâtiments on a des coups de poteau. Et là, c'est ça quoi. Mais donc pour revenir sur la 3D, c'est vrai que c'est le problème, c'est effectivement comment enregistrer ça du coup. Conserver, c'est mettre en place dans le CIGE. C'est ce qui a un intérêt.
Le LIDAR, c'est de la 3D et on a déjà.
C'est pas de la 3D, c'est
du avec des objectifs, ils ont commencé à faire des analyses spatiales et environnementales.
Là, on est sur une information qui est spécialisée. Après, dans les outils SIG, tu as effectivement la restitution qui est. Mais là, pour moi, ça, c'est pas de la 3D. La 3D, c'est du volume. Vraiment, c'est-à-dire qu'en AXY, tu as NZ. Voilà. Pour un seul objet.
Superposé.
Non, pour un seul objet. C'est ça. Et donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire.
Il n'y a pas de vrai SIG en 3D. En
voilà.
Parce qu'on ne peut pas faire d'analyse spatiale, c'est-à-dire en SIG, sur des objets en 3 dimensions. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. On peut travailler dans un univers 3D, mais avec des objets qui sont en 2D et demi. Ou alors on peut construire des objets en 3D, mais on ne peut pas les interroger pour.
ça n'existera jamais.
Ben, enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent. Oui,
mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils travaillent, mais à la fin, c'est 2D.
Oui.
C'est pas 3D. Avec tous les gens que j'ai parlé qui disent j'ai fait les GIS 3D, à la fin, j'ai compris c'était 2D.
Mais c'est ce qu'on appelle la 2D et demi. Ouais. Ah. Parce qu'on extrude. Oui. Ou alors, regarde, tu joues sur la hauteur de tes couches et voilà. Mais en fait, la vraie 3D, c'est que la définition, c'est XY, tu peux avoir pour un objet, un XY, tu as NZ. Le cas d'une grotte. Et ça, on ne peut pas actuellement le figurer. Donc il faut des outils 3D. Et là, tu fais de la modélisation 3D. Mais l'objet que tu as modélisé en 3D, est-ce que ça a un sens après de le récupérer dans le machine LCG? Je ne suis pas sûre. Ce qui peut avoir un sens, c'est que le fait de l'avoir modélisé, ça va t'apporter de la connaissance, de l'interprétation, et que cette connaissance, tu la réinjectes dans ton système.
Absolument.
Mais ce n'est pas l'objet 3D qu'il faut.
C'est le va-et-vient entre les
deux. C'est le va-et-vient.
Ça dépend pour quel type de SIG après, si c'est du SIG pour de l'analyse spatiale, en effet ça n'a aucun sens. Si c'est pour un SIG plus on va dire grand public ou pour du porter la connaissance ou autre, là il peut y avoir un intérêt à avoir une vue 3D à un moment donné d'un objet
mais dans le SIG. Un SIG, on fait toujours de l'analyse avec un SIG, puisqu'on on met des choses et on fait des sélections.
Je ne parle pas de l'analyse avec, je ne parle pas de deux SIG différents, je parle d'un SIG où on fait de l'analyse et le même SIG qu'on va consulter pour une autre manière, en fait. Mais le fond est le même. C'est dans ce sens-là, je pense. Enfin, nous, Alex, voilà, il parle de plus en plus de passer le SIG, de plus en plus. Il commence à nous préparer cette idée-là de la donnée 3D. Dans le SIG, que d'ici à 5 ans.
Là, franchement, j'arrive pas à voir comment on peut faire.
Sur du bâti.
On peut extraire des données d'un SIG et les mettre avec des données en 3D pour faire des restitutions, etc. Mais c'est plus un SIG, c'est une vue, même, ça peut être un logiciel, hein, pas de problème.
Non, ce sont des calculs de volume à l'intérieur des bâtiments publics. Ils vont modéliser la totalité des bâtiments publics pour calculer les surfaces de murs, les surfaces de plancher, les surfaces de baies, enfin voilà, pour eux, pour des calculs derrière.
Ils vont arriver à calculer, par exemple, des surfaces courbes, des choses comme ça. Alors là, je ne vois pas comment on peut faire. Mais je ne suis pas à la pointe.
Des surfaces courbes dans quel sens?
Par exemple, s'il y a un chevet, comment on calcule une surface...
Le volume?
Oui.
Ah le volume, il sera donné par l'objet en lui-même. Si on crée un objet,
s'il y a, oui, mais
problème.
Ben si, parce que quand il y a plusieurs Z, comment on fait quand c'est un cul de four, quelque chose comme ça, c'est très très compliqué ça.
Oui, mais ça, mathématiquement, c'est le volume, il est créé par.
Parce que c'est ça, c'est propre à la forme de l'espace.
Ça s'adapte à la forme. Alors en fait, ce qui est difficile, c'est la visualisation. Et puis effectivement, c'est là que pour l'instant, la pièce d'achoppement a écrit, se travaille là-dessus depuis quelques années, mais sans réussir à faire. Chose, c'est comment rendre ça facile à utiliser, sans que ce soit comme les logiciels Trimble pour la 3D qu'on manipule à la 3D, sont un petit peu complexes d'utilisation, et les trucs SIG c'est encore pire. Mais on peut rattacher à ces objets, parce qu'on est sur du point OBJ, donc on est vraiment sur de l'objet qui peut être individualisable, on peut rattacher des informations.
Oui, bah oui.
La difficulté et les interrogés. Voilà. Pour l'instant, la complexité, c'est vraiment des états antérieurs. C'est la quatrième dimension qui pose problème. La 3D, maintenant, ça se gère à peu près, c'est la quatrième dimension. Donc l'évolution de cet objet temporel qui pose un peu de soucis.
Moi, je l'avais un peu testé avec Argis dans ma thèse, où j'étais avec des boîtes, des extrusions pour essayer de travailler sur les dynamiques du. Alors, c'était plus sur les dynamiques au sol, mais c'était vraiment les dynamiques des maçonneries. Des maçonneries qui sont réutilisées pour d'autres, comment c'est combiné. Et puis surtout, mais les résultats étaient. Bon, ça demandait beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, j'avais trouvé des résultats intéressants. C'était pour réfléchir sur l'évolution de la topographie physique. Parce qu'en fait, j'avais des points pour le modèle numérique de terrain actuel. Et puis, soit par des fouilles, soit par des études bâties, j'avais des informations sur des hauteurs de niveau de sol que j'arrivais à dater. Donc, j'avais une base de données de plein de points. Et je pouvais construire des modèles à différents temps et faire après des soustractions pour voir ces parties qui ont été remblayées, décaissées. Moi j'avais trouvé de l'intérêt là-dedans plus finalement que dans l'extrusion et des analyses sur le... Mais peut-être parce que j'avais, en y réfléchissant après, je m'étais dit que j'avais peut-être pas justement la bonne échelle d'enregistrement. Il fallait peut-être travailler sur les aspects architectoniques dans les maisons, sur la notion de mur, de colonne, de pied droit, de choses comme ça, pour vraiment travailler sur les dynamiques du bâti d'un point de vue architectonique. C'est vrai que j'avais un peu laissé de côté. J'avais trouvé que c'était un peu limité, non pas en termes de navigation, mais plus en termes d'analyse spatiale qu'on pouvait faire. Mais bon, c'est bien un petit moment.
C'est une question intéressante parce que moi, une des grosses questions avec les outils qu'on a à l'heure actuelle concernant le bâti, c'est justement comment rendre la complexité d'une façade qui a été reprise pendant 300-400 ans. Si on regarde ça spatialement juste du dessus, on a une ligne, on a la façade. Et pourtant, il y a beaucoup d'informations sur les pieds droits, mesurés d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut renseigner si ce n'est en rajoutant, voilà, sur cette façade-là, il y a X baies du 15e siècle, X portes reprises à telle ou telle période. On a de la donnée qui n'est plus en 3D, qui va être réaplatie, mais ça pose le problème de sa interprétation et de son analyse. Il faut être capable de récupérer de l'information sur certains types de bâtis civils ou religieux. Et comment la renseigner juste à l'échelle d'un linéaire ou d'une façade.
Ah oui, c'est pas difficile.
Mais il est plein quand même.
Alors, on l'a comme ça, mais pour l'instant, les logiciels ne permettent pas d'aller facilement, en tout cas, où j'ai pas trouvé de système qui permette de visualiser.
Seulement pour la visualisation, tu dis.
Et questionnement, ce sera encore mieux.
Ce que j'avais fait ici, mais je vous dis, j'étais pas hyper satisfait, c'est que j'avais enregistré les maçonneries et puis j'avais indiqué que cette maçonnerie elle servait à tel état de bâtiment, à tel autre état de bâtiment, etc. J'avais fait des liens comme ça et après il suffisait de faire une requête sur soit un bâtiment et je voyais, je pouvais reconstituer le bâtiment, soit sur une maçonnerie, je pouvais savoir à tous les bâtiments auxquels elle avait appartenu. Et bien sûr je pouvais faire des sélections dans le temps ou dans l'espace, donc savoir à tel moment tout ce que j'ai. Voilà. J'avais fait ça. Et en fait, en travaillant après sur les relations que j'avais établies entre les bâtiments eux-mêmes et les morceaux de bâtiments, les maçonneries, je pouvais savoir si certaines maçonneries avaient été très réutilisées, tandis que d'autres l'étaient moins. Donc s'il y en avait qui étaient plus sollicitées que d'autres. C'était un peu la même approche que ce qu'on présente avec le modèle sur les dynamiques spatiales, sur l'occupation du plan, sauf que là, c'était sur le bâti. Et voilà, donc ça permet. Donc finalement, sur une façade avec des fenêtres qui étaient rebouchées, repercées, etc., j'enregistrais toute la façade actuellement, et puis je redécoupais tout en petits blocs, pas les pierres, mais les fats, elles étaient attribuées à différents états de bâtiments. Je pouvais interroger les états de bâtiments et avoir des sélections qui correspondaient à l'état 1, 2, etc.
Et donc c'était fonctionnel quand même ?
Ah oui, c'était fonctionnel. Après, c'est moche.
Mais
c'est moche. C'est un peu comme ce qu'ils présentaient pour Perpignan, où ils avaient fait. Ils disaient qu'ils avaient fait de la 3D, mais qui n'était pas à vocation en public. C'était vraiment pour qu'ils réfléchissent. Par exemple, là, dans ce qu'il y a ici, là, ce que vous voyez ici, ça, là, ce qui est une espèce de deux murs, c'est en fait un vomitoire de l'amphithéâtre. J'ai pas fait la voûte, parce que déjà, on peut pas le faire. Et puis parce que ça apportait absolument aucune. Ce qui était intéressant, c'était les murs, comme je savais que la voûte a fonctionné avec. Peu importe, j'ai pas fait les toitures aussi parce qu'on s'en fiche, enfin je m'en fichais qu'il y ait les toitures. Moi ce qui m'intéressait c'était les maçonneries et que ce soit fermé pour faire style maison, j'en avais pas besoin ici.
Et c'est le problème de la 3D, c'est le recouvrement aussi. Enfin, après, finalement, commencer à bosser. Hein, voilà, après,
les
objets qui masquent tous les autres objets, pour essayer de comprendre, il faut en effacer.
Ah oui, oui.
C'est dans les vues, c'est très compliqué, la 3D pour ça. Enfin, les vues cavalières.
Ah bon, dans cette image-là.
Ça, c'est autant on voit, mais moi, j'ai les vues cavalières d'Aix qui ont été faites en aquarelle, ce sont que des écorchés où on voit des bouts de maison pour essayer de comprendre un peu. Et dans la 3D, c'est le gros problème, c'est que. On voit que ce qu'il y a la première tranchée, enfin le premier rang, puis derrière on voit rien, alors tout a été modélisé, c'est dommage, mais donc il faut tourner pour essayer, puis finalement on n'arrive pas à s'en rendre compte. Ça c'est un problème de transparence, et puis même après de la transparence dans la 3D, ça devient incompréhensible, donc bon. Dans les CG, ça sera. Non.
Et à propos des questions, là il y a une.
Oui, mais c'est un autre sujet.
Ah, vas-y.
Similaire. Bon, c'est peut-être un peu naïf, mais je voulais savoir, on peut faire une demande comme ça ?
Oui.
À quoi ça vous sert le LIDAR pour la ville ?
On travaille sur la géoarchéologie fluviale, donc toute l'évolution de la topographie de la Loire, les épaisseurs stratigraphiques. C'est-à-dire qu'on a, avec le BRGM, on est en train de travailler un petit peu sur la modélisation de tout le substrat et pour comprendre un petit peu les grandes épaisseurs, les grandes phases de colluvionnement,
mais pas pour les bâtiments, par exemple, non. Tu vois,
bah, il peut y avoir le MNE, c'est ça en fait. MNE, donc il y a le MNT, la modélisation numérique du terrain, et le MNE, c'est la modélisation numérique d'élévation. Donc là, vous allez avoir toute la végétation, tous les immeubles, tout. Voilà. Donc là, il y a tout, nous à Aix, on a ça, on a le MNT, le MNE, et en plus, on a l'orthophoto qui a été faite entièrement en LIDAR. Et donc en archéologie, moi je ne me sers que du MNT, parce qu'en effet, ça donne à un moment donné le relief à 15 cm près du sol actuel. Et le MNE, je m'en sers pas, c'est un peu trop lourd parce que ça fait énormément de points, mais on a la modélisation numérique de la totalité des élévations à un moment T. Quoi. Donc,
ce manque, pour Pradou, ça sert à rien parce que par exemple, les tours, ils ont été coupés, les bâtiments ont été élevés. Donc, je le dis parce qu'on utilise beaucoup les LIDAR pour les paysages. Et je sais qu'il y a les LIDAR de la ville. Je réussis pas à comprendre à quoi ça me sert parce que j'ai déjà l'information géomorphologique. Il y a déjà eu beaucoup de travail sur la géomorphologie et donc ça serait une formation adjunctive.
Elle nous sert aussi, nous, là pour le coup c'est plus pour les architectes, mais pour tout ce qui est PLU, donc règlement d'urbanisme. On a des autorisations de construction selon les hauteurs de toits, dans certains quartiers, ou de préservation de certains types de chiens assis, de cheminées ou de choses comme ça. Et avoir ce MNE, c'est quelque chose qui leur sert bien plus qu'à nous. Le LIDAR permet aussi d'avoir ce genre d'informations rapidement.
J'ai vu un cas au Japon, à Kyoto, ils ont fait une analyse sur la ville et ils voient vraiment le palais impérial avec le LIDAR, ils arrivent à voir les terrasses, le plan de la ville. Enfin, vraiment, c'était le seul cas que j'ai vu comme ça.
Mais seulement s'il y a des espaces libres, si toi tout construit, tu ne verras rien.
C'était vraiment, bon, je ne sais plus exactement le détail du cas, mais ils arrivaient vraiment à voir, à visualiser comme ça avec la 3D, des terrasses. Qui reste dans la ville, une fossilisation topographique d'une urbanisation urbaine qui est précédée celle qui est actuelle. Et c'était à la dernière, il y avait à Paris 1, là, le 6 mars dernier. C'est sur Calendar.
Là, sur la ville d'Autun, on est en train de faire une session d'art. Donc c'est une ville antique, hein, qui est au pied de Bibracte. Et il y a effectivement toute une organisation en terrasse. Et le but, c'est effectivement d'avoir ce jeu de terrasse, comment la ville s'organise par rapport à cette terrasse, notamment de la ville antique à la ville actuelle. Okay. On n'a pas les résultats encore, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, ça c'est une des questions par exemple. Okay.
Mais pour la ville, il y a une interprétation en fait, du LIDAR. Hein. Donc nous, à Aix, ils enlèvent tous les bâtiments, pour le faire le MNT par exemple. C'est une analyse LIDAR, donc ils prennent toutes les rues, donc c'est un point tous les 50 cm. Et quand c'est sur un bâtiment, ils enlèvent le bâtiment et ils font une interprétation en fait entre rues pour donner un sol entre les deux bâtiments. Donc ils font une relation.
Il peut élever aussi les bâtiments ?
Oui, bien sûr. Oui. Okay. En fait, le MNT, c'est qu'un MNE sans les bâtiments en fait.
J'ai
levé
seulement
deux
arbres
jusque maintenant. Mais bon, voilà, après, c'est plusieurs millions de points. Hein, pour la commune d'Aix, il n'y a que deux ordinateurs à Aix-en-Provence qui arrivent à travailler correctement avec les données, parce que c'est des centaines de millions de points. Et voilà, nous, on travaille sur des petits carrés. C'est assez astronomique comme données. Avec la précision en plus actuelle, qui va certainement en plus s'agrandir maintenant.
S'appelle Tatsunori Kawasumi.
Moi j'ai une question aussi, mais alors pareil, c'est complètement différent. C'est sur la pertinence dans l'enregistrement de certaines données. Puisque là, bon, on parlait de justement qu'est-ce qu'on enregistre et tout ça. Moi je suis pas d'accord avec certaines personnes pour justement moi la mise en place du CIGE. C'est sur est-ce que dans le CIGE il y a un intérêt à mettre le pierre à pierre. Je sais pas si vous avez rencontré ce cas. Personnellement non mais je sais pas parce que voilà, moi personnellement je vois pas l'intérêt de mettre le pierre à pierre dans le CIGE.
On a l'échelle de cassure, on fait juste du polygone.
Voilà, moi c'est ce que je fais aussi, mais sauf que.
Il y a même plus d'intérêt à le faire du tout dans un certain nombre de cas.
Ouais, non, le pierre à pierre.
Alors ça dépend là encore si tu travailles à l'échelle du site ou à l'échelle
de ton mur.
Parce qu'à l'échelle
du mur, ouais, c'est pas du mur.
Oui, non, parce que voilà, moi je sais que voilà, j'enregistre voilà, le mur.
Pierre à pierre, là.
Quand j'enregistre voilà, le mur, pareil, moi c'est ce que je fais, voilà. Je dessine. Voilà, d'ailleurs, c'est un autre problème aussi, c'est où est-ce que j'arrête le mur d'ailleurs. Quand le mur il a un numéro, et où est-ce que je l'arrête? Il a un autre mur.
Oui, mais là c'est.
Mais du coup, oui, voilà, moi je vois pas l'intérêt par
les dernières affaires. Tu le mets en raster de la
chose. Nous, le. À Dijon, on met pas le pierre à pierre. Mais dans le cadre, en fait, on a fait la formation qu'on fait pour du réseau Les Arcs, au départ, on avait monté pour l'INRAP. Un objectif qui était la production des DFS, qui ont des contraintes réglementaires, effectivement. Donc la logique au départ, quand on avait monté cette formation, c'était qu'il y ait une cohérence, un INRAP hyper le géoréférencement. Pour les relevés AutoCAD, d'abord, il passe une autre méthode, on va dire, de conserver le géoréférencement jusqu'à la fin. Et que la phase illustrateur, c'est vraiment quand je veux habiller ma carte. Voilà. Et donc là, effectivement, dans la production des documents graphiques, il y a besoin de mettre le pierre à pierre. Donc là, dans cette démarche-là, qui est sur mise en place, enfin, utiliser un système d'information géographique pour une opération archéologique, en vue d'une opération archéologique, avec derrière l'obligation légale de produire un certain nombre de documents, là, ça peut avoir un sens.
D'accord, parce que c'est vrai que moi, pierre à pierre, par exemple, je l'ai sur, voilà, sur Illustrator, mais après.
Après, nous, ce qu'on leur montre, c'est soit vous avez votre pierre à pierre en format image, peu importe, que vous recalez. Parce que le but, c'est de dire, soit pour d'autres raisons, mais là, c'est vraiment dans un final qui est, j'ai besoin de donner un rapport et
de comme ça. Mais ça aussi, je pense que quelque chose dont évoluer, moi, ça renvoie à la question de la représentation des données de terrain dans les SIG. On continue à vouloir visualiser le contour de ce qui est observé. Or, ça n'a pas toujours d'intérêt réel, notamment quand on est en milieu peu stratifié, ou même pas stratifié, ou tout est arrangé.
Les
oui. Finalement, on relève tous les trous de poteaux, les fosses avec le contour observé, mais ce qui n'a pas tellement d'intérêt puisqu'on raisonne bien à partir du centre OI qui est le seul, parce que finalement le poteau, on ne sait pas où il a, à quel endroit il a été coupé, enfin quel niveau de sol on n'a pas les niveaux de sol généralement. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien représenter toutes les structures en creux par un point. Associer des informations attributaires de dimension qui nous permettent ensuite de représenter les.
Alors, tant qu'à reprendre au propre les plans de terrain, pourquoi pas les faire sous CIG plutôt que les faire sous Adobe Illustrator.
Mais il faut tout faire sous CIG, je vous dis.
Oui,
mais là, on est dans une. Moi, je parle de ce que je vois tous les jours, puisque à l'INRAP, on est dans une phase de transition. Les choses vont évoluer, donc pour le moment, moi j'ai le discours de dire aux gens, bon, vous mettez ce que vous voulez dans le SIG, si tu veux mettre ton pierre à pierre, tu mets ton pierre à pierre, du moment que ça se fait sous SIG. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Après, non, mais parce qu'on ne peut pas leur demander d'entrée de jeu de changer, c'est difficile de changer totalement, ils ont besoin de retrouver un minimum ce dont ils ont l'habitude, c'est pas grave, c'est. Et puis les transformations, les choses vont se faire aussi. Il y a un certain nombre de choses qui vont se faire d'elles-mêmes, plus ou moins naturellement, parce qu'au bout d'un moment, ils vont dessiner leur pierre ou leur truc. Ça se fait. Mais c'est une question. C'est une fausse question. Oui, il faudrait. Pourquoi on fait un SIG? Voilà,
C'est l'échelle.
C'est vrai que c'est juste pour marquer. Il y avait eu un début de SIG avant que j'arrive.
Ouais.
Où la personne fait un gros travail, tout ça, mais elle dessinait le pierre à pierre.
Oui, oui, bah oui.
Et donne attributaire, pierre. Ouais, c'est bien, c'est pour toi.
Ça peut apporter de la cartographie automatique ou semi-automatique. Il y a un exemple, peut-être vous connaissez, c'est la cathédrale de Limoges, quelqu'un qui a été Éric Delon s'appelle ?
Non, c'est la cathédrale d'Angoulême.
Éric Delon, il a fait un SIG de la façade. Chaque pierre, c'est un bolide. Il y a des attributs vraiment qui sont. Bon, il n'y a pas vraiment d'analyse spatiale, mais il y a des requêtes selon différents attributs qui permettent de faire, bah, de voir toutes les fissures, toutes les pierres restaurées, et donc automatiquement, il y a des cartes automatiques qui sont. Il n'y a pas de recherche d'analyse spatiale vraiment, mais c'est un outil, je pense, qui est beaucoup. Enfin, il a utilisé l'outil de manière beaucoup plus efficace que s'il avait utilisé un autre outil, par exemple Illustrator. Où, quand même, on le sait bien que pour mettre des informations derrière les données, c'est beaucoup meilleur.
Mais bon, il est à l'échelle de la façade du mur.
Il est à l'échelle des façades.
D'accord.
Non, mais après, oui, c'est voilà, tu travailles à l'échelle de ton mur, pourquoi pas
sortir tous les renforts.
C'est que ça, on avait déjà fait. Ça aurait pu être fait sur le château de la Seine avec
Pochard. Alors ça marche bien quand c'est une seule face, hein, quand
ça commence à être. Bah, tu l'as déplié,
on l'a déroulé.
Il est déplié. Il y a une autre finalité dont on n'a pas trop parlé. On en a un peu parlé hier, mais c'était assez discret. J'imagine que si on était peut-être 20 ans en arrière. Ah, si on parlait des villes, on en aurait plus parlé. On ne va pas parler de SIG sans doute, mais on aurait plus parlé de ça. C'est la question de l'évaluation. Parce qu'on passe des données, là, des observations archéologiques de terrain, d'autres sources de données. On les synthétise, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses, visualisation, des analyses. Mais il y a cette question quand même qui est importante en archéologie urbaine, c'est celle de l'évaluation, enfin, en tout cas qui était importante. Et est-ce que vous avez des finalités qui s'oriente
les
baissiers
sédimentaires.
Parce que, d'accord, on peut toujours savoir le potentiel archéologique d'un espace. Si on a plein d'informations, on cherche toutes les informations qu'il y a dans ce secteur, ouf, on a la liste, donc on sait, on se dit, bon, bah là, on a la mention de ça, donc on estime. Mais bon, ça, c'est pas sur l'épaisseur du dépôt ou sur le potentiel bâti. On peut pas trop qualifier, en fait, des secteurs. Participer au zonage archéologique pour aider à la décision, vous savez, comme les documents d'évaluation, il y a un moment.
Bah nous, c'est une de nos finalités premières, des axes qu'on est en train de mettre en place avec le SRA, justement, on vient de la rencontrer la semaine dernière, pour abonder la carte archéologique des différentes observations qu'on a pu faire depuis 3 ans, d'une part, et puis d'autre part, calculer, mesurer cette épaisseur stratigraphique en lui mettant notre échelle la plus basse, c'est le fait archéologique. On va être donc pas sur le pierre à pierre, mais sur le polygone du mur, par exemple. Pour la stratigraphie, on va être sur les grandes phases. On a choisi pour l'instant de poser par période, par exemple, comme l'été antique, au Moyen-Âge, des trucs un petit basiques. Mais ça nous permet, comme ça, sur la ville, d'avoir un début de cartographie.
Donc vous connaissez, en fait, vous enregistrez des codes d'apparition. Codes d'apparition, disparition, disparitions plutôt apparition des autres.
Y compris les arasements qui ont été effectués au 19e siècle. Donc ça, on essaie d'intégrer toutes ces données-là.
Les destructions.
Les creusements, les caves dont on a pu.
Alors les caves, oui, parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles. Enfin, soit on considère que la carte a détruit tout ce qu'il y avait d'un point de vue. Si on se fixe, si on pense que le potentiel archéologique, c'est le potentiel sédimentaire, ou alors on considère que la cave, c'est un objet archéologique aussi, s'il est un peu ancien, quoi.
C'est un peu les deux finalement. Si on fait l'archéologie du bâti, on ne peut pas se séparer du sédimentaire réciproquement. Je pense que quand on travaille en ville, on est obligé de mêler sédimentaire et archéologie du bâti. Donc, c'est difficile de travailler que sur l'un, c'est un peu pieux, mais enfin ça devrait être.
Et pour les élévations, parce que bah, du coup il y a du potentiel archéologique dans les élévations, et là comment on le traite pour faire des cartes? J'ai jamais fait ça moi, donc.
Là on est plus à l'échelle du monument, parce que malheureusement on a très très peu de monuments classés ou inscrits à Nantes. Lacunes en termes de carte archéologique, de traitement du patrimoine au sens large. On a tout à faire, ce qui est assez excitant, mais en même temps assez lourd. Là, pour tous ces bâtiments-là, en fait, on fait plutôt du ponctuel et on indique avec une zone buffer autour aux services qui vont faire des aménagements qu'il faut porter attention à ce bâtiment.
S'il était classé ou inscrit son périmètre de protection, c'est ça ?
Voilà, ça. Donc s'il y a intervention. Comme on gère aussi toute la restauration des façades, enfin, notre service gère aussi sa restauration de façades, les architectes qui font ces restaurations de façades font appel à nos données pour vérifier, valider la présence ou l'absence de bâtiments anciens. On a trouvé une collégiale du 9e siècle, comme ça, juste en pétant des enduits ciment, et il restait un arc parfaitement conservé, donc il va être réintégré, restauré. Ça a été fait parce que sur la carte, le prémisse de SIG, on avait réussi à montrer qu'il y avait probablement de fortes potentialités d'avoir ce
bâtiment. Tu voulais dire un risque, mais ça dépend de
quel... Oui, le risque. Là,
c'est vrai qu'on veut dire... À Padoue, la situation, c'est absurde, parce que bon, notre GIS, c'est un fondamental pour les monuments, en vue qu'il n'y a aucun catalogue de monuments anciens et qu'on réussisse à les dater au siècle. Mais les services de protection des monuments, bon, on leur a dit plus fois, mais ils n'ont aucun intérêt au projet, même s'ils n'ont pas un catalogue. Et en plus, on a demandé plusieurs fois que quand un bâtiment va être restauré, s'ils nous peuvent informer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de fois que bon, les méthodes actuelles, c'est pour... malheureusement, de mettre la peinture sur les bâtiments qui étaient encore en cuite. Et donc, après ils ont mis la peinture, c'est impossible à les étudier non plus. Et la chose encore plus absurde, c'est que les principaux financiateurs de restauration des monuments, c'est le même... financiateur de notre projet. Et donc j'ai demandé plusieurs fois, mais en allant personnellement, si vous restaurez ce bâtiment, plaisir, on est déjà payé, donc on va demander rien, mais c'est impossible, il y a une sorte de coupe. Ça serait un des objectifs fondamentaux de l'armée possible, de donner l'information scientifique pour la restauration, surtout la restauration, et après la protection. Bon, on continue à insister sur ça, mais c'est souvent qu'on trouve déjà les bâtiments restaurés. Donc, rien.
Oui, si vous avez des exemples comme ça de modélisation des épaisseurs stratigraphiques, si ça a déjà été vraiment validé quelque part, si ça a déjà été testé.
Il y a eu un début de thèse, nous, à Bibrac, avec un partenariat avec l'Université de Dijon, mais oui. Malheureusement, la thèse a été abandonnée. Et il étudiait ça, en fait, vraiment la modélisation de la stratigraphie. Après, je ne sais pas.
Peut-être, je ne sais pas s'il y a des données qu'il a laissées ou pas, Benjamin. Parce que yeah. c'était le sujet de sa thèse, pour modéliser la stratigraphie. Je sais que voilà, moi j'ai eu quelques trucs en 3D, tout ça, pseudo-3D qu'il essayait, tout ça. Mais,
il y a eu des travaux sur la ville de Tours qui ont été réalisés par Amélie Laurent.
Ah mais oui, la thèse d'Amélie Laurent.
Elle a travaillé là-dessus en passant, avec une grosse problématique, en passant du point à des observations ponctuelles à...
C'est ce qu'on veut faire à Alex, là, justement. Le carottage technique qu'il essaie de récupérer.
Elle a travaillé à partir de ça.
Voilà, il va étudier toutes les hauteurs du substrat géologique ou archéologique selon les interprétations, mais... et voilà, donc nous on a déjà le MNT, donc on a la surface du sol actuel, et ce qu'on veut faire maintenant c'est avec la totalité des échantillons qu'on a sur les hauteurs, sur les altimétries des substrats, essayer de redessiner, de refaire un MNT mais du substrat à ce moment là et de mettre ça en corrélation, et on aura une épaisseur sédimentaire archéologique sur la totalité au moins du centre-ville pour l'instant. Et
je ne sais pas si vous connaissez ces travaux, essayez de vous rapprocher, parce qu'elle travaille toujours sur ces mêmes villes. Elle travaille au département du Loiret.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que
vraiment, mais elle continue en recherche.
Avec assez peu d'échantillons, on a réussi à savoir, parce que enfin, moi j'ai regardé un peu, et finalement c'est quand même assez relativement éloigné les échantillons.
Elle a utilisé le panda, c'est un. En fait, le système s'est enfoncé une tige métallique dans le sol, et ça, voilà, et donc ça enregistre la résistance. Mais elle a aussi utilisé toutes les données, tous les archéos, et puis tous les carottages qui ont été faits. Donc finalement, elle a croisé aussi pas mal de sources finalement pour le même objet, et il y a beaucoup de problèmes d'interpolation qui se posent, notamment qu'on ne peut pas tout interpréter, parce qu'il y a des limites d'interpolation, comme par exemple à Tours, la Loire. forcément, on ne peut pas interpoler tout. Dans la Loire, il n'y a pas.
Oui, puis il y a des palais au vallon, ce genre de choses qui ne se voient pas forcément suivant le.
La preuve, il faut avoir un certain nombre de points quand même. Assez...
Oui, mais voilà, mais il faut densifier, il faut avoir une maille relativement
intéressante. Ou au moins que ce soit assez, assez bien réparti. Parce que moi, j'avais ce problème-là quand j'ai commencé un master. J'étais sur un site au Soudan et effectivement, il y avait eu pas mal de carottage. J'avais fait un peu de traitement en interpolation, tout ça. Le problème, c'est que c'était pas assez. Il y a des zones où voilà, c'est assez dense et puis des fois. Mais en fait, ça reste de l'interpolation. Donc,
mais ça, c'est pas très grave. Il suffit de faire des cartes de fiabilité à côté. On a des cartes avec. Simplement la carte avec la localisation des observations, des points, etc. Si on confronte les deux, on va savoir que là où il y a plus de points, c'est plus fiable que là où il y a plus un désert de points.
Oui.
Donc, il y a des. Bon, une carte se regarde pas sans l'autre à ce moment-là, mais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que ça s'est un peu essoufflé ces questions-là par rapport à aux années 90.
C'est peut-être parce que là il y a une méthode qui a l'air de marcher et tout le monde reprend en fait. Je sais pas.
Laquelle ?
Reprendre les logs et puis faire une interpolation.
Mais on n'en voit pas beaucoup des cartes des vaisseurs de départ
que je suis en train de dire, je crois qu'à Lyon ils l'ont fait.
S'ils les font en secret aussi, les gens.
Je crois qu'à Lyon, ils ont aussi travaillé sur les placements des drones, de la zone. Voilà, peut-être les deux. Tu vois. Là, j'ai des cartes en tête où justement, pour toujours sur des questions de potentiel, en fait, de dater.
C'est vrai qu'ils avaient fait pas mal. Elle travaillait à la baisse, elle avait travaillé un peu avec eux et avec des gens à Bordeaux aussi, je crois.
Dans les données de fouilles qu'on peut utiliser pour ça aussi, à Alésia, il y a 40 puits qui ont été fouillés sur la terre. Et on a les descriptions du moment où ils tombent sur le substrat. Alors même si c'est des fouilles anciennes, le moment où ils arrivent, c'est un plateau calcaire. Au moins, ils arrivent sur le plateau calcaire. Moi, je l'avais utilisé pour l'hydro. Logique pour voir où finissait le calcaire et où il touchait la nappe, et on voit que le substrat calcaire s'épaissit, enfin il y a un bandage dans le sens. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, j'avais pas percuté l'utiliser aussi comme ça, mais c'est vrai que je pourrais utiliser ces deux supérieures pour l'épaisseur.
C'est limité,
effectivement. Oui, parce qu'en plus, tes puits sont bien répartis, non ?
Ben, sur toutes les zones fouillées, il y en a, donc, et puis en plus, à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'objets dedans, donc les puits, ils ont tous vidé. C'était fouillé aussi. Mais au moins le substrat a pas pris.
On a fait le tour des questions. Il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ou... Peut-être aussi de dire de développement aussi de.
Ouais.
De travail ou de réflexion ou de choses comme ça, on peut. Parce que là, donc ça fait, je vous l'avais dit hier, ça fait l'autre atelier ville dans le réseau ISA, c'était il y a un moment. C'est pas parce qu'il se passait rien, c'est parce que il y avait d'autres activités. Mais on peut relancer sur organiser une prochaine réunion sur un thème plus précis. Là c'est un peu général, c'est peut-être aussi pour faire un peu connaissance, pour. Voir un peu où chacun en est, ce qu'il a envie de faire, si on peut discuter ensemble. Je crois que ça a plutôt bien marché. On a réussi, malgré qu'on fasse des choses très différentes, on a réussi à discuter, à s'entendre. Donc je sais pas s'il y a des souhaits, alors peut-être pas les formuler maintenant, mais dans le futur, on peut organiser des choses, on peut organiser des séminaires sur pas toujours dans les salles ici à Toulouse, on peut aussi se déplacer sur un terrain ou un autre.
Ailleurs que dans son université.
Oui, c'est ça, c'est bien ce que je voulais dire, on peut voir.
Je connais pas bien, non.
Donc s'il y a des thèmes, sympa, si vous voulez, si vous avez des idées précises sur lesquelles vous voulez travailler, on peut discuter au sein du réseau comment monter un séminaire spécifique là-dessus pour faire venir des gens spécifiquement sur ces questions. Il y a plein de formats possibles. Hein. Enfin, là, je suis en train de faire la pub, donc j'ai l'impression que je n'avais pas prévu ça au début de
non, la parole. Mais... Parce que le réseau, en fait, c'est ceux qui participent, qui l'animent. Donc, c'est tout archéologue du moment où il y a des questionnements autour de l'information spatiale.
Donc, des réunions de travail comme ça, ça peut être voilà, des séminaires avec des communications qui se suivent de manière un peu plus automatique.
Mais c'est pas mal, c'est vrai que là on a abordé plein de sujets, enfin, oui. Moi j'ai eu bien conscience de partir un peu partout, mais ça donne envie de, effectivement, d'approfondir un petit peu ça.
Parce que voilà, voilà, l'interpolation, on peut faire quelque chose sur l'interpolation, peut-être un peu plus technique, mais en proposant des données, en faisant des présentations, on montre la plus des choses. Il y a le bâti dans la ville, voilà, comment on l'intègre. On a vu que le bâti, on en parlait, je pense, beaucoup plus qu'il y a 20 ans aussi. C'est peut-être que...
Ouais. Puis en termes de méthodo, parce que c'est quand même une question qui est revenue souvent, c'est aussi la 3D, quoi. Il va falloir que je m'aime maintenant, parce que ça, c'est des questions qui apparaissent là depuis un an ou deux, qui n'étaient pas de manière systématique.
Parce que c'est vrai que...
Et là, ça apparaît, et je pense qu'à un moment donné, il faut.
Il y a des questions un peu anciennes sur lesquelles je suis pas sûr qu'on avance. Enfin, on peut beaucoup débattre, mais je suis pas sûr qu'on avance, comme celle de la résolution temporelle, etc. On voit les limites un peu, peut-être, de genre de réflexion. Ça dépend beaucoup des objets. Mais il y a des choses vraiment, je pense, encore à explorer, quoi, des questions à faire. Donc, si vous avez des idées, là, on peut en parler maintenant, sinon on peut échanger.
La 3D, je pense que c'est une bonne thématique parce qu'il va falloir s'en saisir scientifiquement, pas laisser le champ uniquement à la valorisation ou au côté un peu gadget. Et à mon avis, c'est un objet d'étude à part entière, enfin un outil. C'est un outil qui peut nous apporter quand même pas mal de choses. Enfin, dans les expérimentations qu'on a pu faire nous sur Nantes, ça.
Oui. C'est vrai qu'il y avait eu des séminaires déjà. Il y avait eu un séminaire sur la 3D déjà.
Mais c'était pas du tout sur les mêmes aspects. Et puis c'est vrai que la 3D actuellement est en plein essor technologique. Mmh. Donc déjà il y a un suivi parce que ce qu'on pouvait voir il y a 3 ans, je pense que maintenant on a fait un bond. Ça va très vite.
Surtout c'était peut-être il y a 6 ans.
Et là, effectivement, je pense qu'il y a tout un champ. Mais même dans un premier temps, ça peut aussi être quelqu'un si quelqu'un a fait un jour des tests d'outils, méthodo, pour en montrer des limites. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'était le travail qu'on a fait il y a carrément sur la SIG, par exemple. Enfin, je veux dire, par là, à un moment donné, pour ne pas se laisser justement piéger par les outils. Mais la 3D, effectivement, enfin...
Tu pourrais faire un séminaire sur la 3D sans PowerPoint, sans présentation visuelle, juste en parler.
Non, non, mais tu vois, faire un état de l'art, enfin, l'état de l'art. Ceux qu'on fait des tests méthodaux, bah, qu'on les présente, qu'ils en parlent. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un a eu besoin de faire de la stéréo ou faire un modelé, puis de l'intégrer, je ne sais pas... Pourquoi pas dans un SIG, il a certainement dû faire des tests méthodaux. Enfin, que ça, il y a comme ça qu'on a avancé à un moment donné. Il y a 15 ans, on a avancé sur les SIG parce qu'on a présenté ça avant de présenter des résultats. En disant, ben voilà, je voulais essayer de faire ça et j'ai essayé ça a marché, ça n'a pas marché. Et ça, c'est le transfert de connaissances et de. Pour après, effectivement. Se dégager des outils, c'est très important de ne pas se laisser piéger par les outils, de ne pas être contraint. Un outil, on fait appel à un outil quand on a besoin. Mais si on prend l'habitude, même en SIG, c'est très important de pouvoir connaître plusieurs outils, plusieurs types de. Pour pouvoir se dégager et se dire, voilà, celui-ci, il est mieux quand il va faire ça plutôt qu'un autre. Même en termes de structuration de données, de base de données, par exemple.
Parson Celant a proposé un événement.
Pardon.
Parson Celant.
Ben ça va mûrir. Non.
Hein? Après c'est. J'avais déjà organisé. J'ai organisé. Ça fait 2 années un colloque qui c'était pas les mêmes groupes évidemment les mêmes choses mais avec Bastien, Kathleen, bon les choses que vous avez publiées là et on l'a déjà publié donc. Faire une autre fois une chose bille, ça serait un peu excessif dans les cours, peut-être dans 5-6 années, où je peux faire bien. Mais je crois aussi la majeure part des gens sont français, donc ça serait beaucoup plus simple de le faire en France pour les voyages. Pour les voyages et tout ça.
Non, pour les Italiens, c'est bien.
Ah, pour nous, ça c'est super intéressant et j'appuierai aussi Nantes.
Donc, quelle date à Nantes ?
Il y a aussi un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est comment on compare des villes.
Oui.
Comment
on compare
comparer.
Comparer, comment, quels sont les éléments qu'on peut mettre en œuvre, les méthodologies pour comparer les lignes.
Ça, ça paraît très intéressant.
C'est à travers la communication de,
ben, y a les
de Sandrine, ouais, sur les coréens. Ouais,
mais et on n'en a pas parlé.
Non, on n'en a pas parlé.
Donc, il y a des pistes.
Donc, on a déjà deux séminaires. Tous les deux à Nantes ou...
Oui.
Aix,
c'est sympa
aussi. Ouais,
Aix,
c'est pas mal.
Il y a le Morvan aussi, si vous voulez.
C'est pittoresque. La Nièvre au profond.
Prague, c'est pas mal. Mais on a les
fins facture.
Le 1er novembre et le 31 mars.
Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et encore, des fois au mois de juin, des fois en juillet.
C'est pas mal.
Mais non, mais c'est vrai qu'après, il y a les infrastructures aussi à Libre.
Ouais, c'est vrai qu'il y a Libre qui
est nécessaire. Donc, on a une grande salle, les deux logements.
Mais bon, il faut prévoir. Enfin voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Chacun.
Est-ce qu'on échange du coup les fichiers pour le point? Donc je ferai passer la liste avec les adresses de tout le monde si par exemple voilà il y a des idées pour qu'on puisse
en discuter. Alors juste un petit rappel, je ne sais pas si tout le monde, on a mis des diffusions sur pour ISA, donc Sigearkéo. Elle sert surtout à diffuser des annonces, des offres d'emploi et tout ça. À un moment donné, on peut utiliser aussi pour poser des questions techniques. Donc ça, il y en a toujours un pour répondre. Alors après, souvent, les réponses peuvent se faire plutôt en ordre privé. Ça, c'est la liste de diffusion et faite aussi pour ça. Si vous avez une question ou même je cherche une publication concernant quelque chose, la liste de diffusion, ça.
Est-ce que tu peux nous envoyer l'adresse pour les étrangères?
Je l'enverrai aussi dans le mail où je vous enverrai les adresses de tout le monde. Je mettrai, je rappellerai le...
Okay.
Je suis dans les toilettes de la cathédrale, donc là c'est la possibilité.
Ouais. Mais ça vient la fin, c'est
ça. Ouais.
Stop.